Bonjour. Alors donc oui, je suis acquisitionniste, j'ai vu que le mot semblait un peu étrange. Donc au départ, je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur acquisition et pathologie du langage chez l'enfant et l'adolescent. Donc là en fait, ce matin, je me propose de vous parler de la manière dont l'enfant apprend à parler, parce que cette manière d'apprendre à parler nous renseigne en fait sur le rôle du langage et pas le rôle de la langue, et dans le développement des dimensions psychiques, psychologiques, individuelles et culturelles de chacun d'entre nous. Rassurez-vous, le plan va réapparaître régulièrement. Et puis, il nous renseigne aussi sur le rôle des interactions langagières pour apprendre, pour comprendre, pour penser. Le rôle de l'interprétation dans les interactions, et notamment le rôle de l'interprétation des adultes de ce que disent les enfants, les élèves. C'est-à-dire que les enfants sont pris sous l'interprétation des adultes. Et parfois, ils sont pris sous la surinterprétation des adultes. Mais c'est leur vie d'enfant, c'est comme ça. Et ma foi, ils se débrouillent avec ça. Et puis surtout, et aussi sur le rôle du récit comme ancrage dans une culture. Et ça, c'est les travaux de Jérôme Brunner qui nous l'ont montré. C'est-à-dire que dès que l'enfant apprend à parler, les parents lui racontent des choses sur le monde qui l'entoure. Et selon les milieux dans lesquels il évolue, ce ne sont pas les mêmes histoires qu'on lui raconte. Et je ne parle pas de fiction, hein. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, la question du langage, j'en parle parce que c'est quand même fondamental, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'arrivée à l'école maternelle, 7 à 10% des enfants environ ont un langage déficitaire. Et parmi eux, 40% rencontreront des difficultés dans l'apprentissage du lire-écrire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, on retrouve ces enfants en très grande difficulté. Alors, le langage oral, c'est pas une mince affaire, puisque ça met en œuvre tout ce qui relève du développement de la pensée, je vais en reparler, développement de l'individu, et donc on peut pas se contenter d'avoir dans les classes à peu près un tiers d'enfants ou d'élèves qu'on n'entend jamais ou très peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas comment ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils savent, on ne sait rien d'eux, parce que la pensée, on a accès à la pensée des autres et à la nôtre que par le langage. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui au niveau de la recherche, c'est qu'un enfant, en gros, a fini d'apprendre à parler, même si on n'a jamais réellement fini d'apprendre à parler, quand il est capable de se faire comprendre de quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de son milieu familial, uniquement par le langage verbal, c'est-à-dire sans gestes, sans déplacement, sans monstration. Là, on peut dire que s'il se fait comprendre, il a en gros fait le plus gros du chemin dans l'acquisition du langage. Alors, je vais m'arrêter, faire un petit cadrage sur langue ou langage, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça, et les derniers programmes officiels entretiennent cette confusion. Je ne pense pas que ce soit volontaire, mais c'est comme ça. Alors, on voit bien que le langage est devenu progressivement la priorité, hein, depuis plus de 15 ans maintenant, mais il propose... cette priorité, elle est comment dire, décliné à travers deux aspects complémentaires. D'un côté, on a l'étude de la langue, c'est-à-dire il faut étudier la structure, le fonctionnement de la langue, comprendre, mettre des étiquettes sur certaines catégories de mots. Alors, il y a les catégories noms, les catégories adjectifs, ce qui ne relève pas d'enfants de moins de 7 ans. C'est-à-dire qu'un enfant de moins de 7 ans, lui, il est dans la deuxième partie, dans le langage. C'est-à-dire que lui, l'enjeu du langage, c'est le développement et la maîtrise de ce langage qui permet de construire sa pensée et sa vie psychique. Alors, le langage et la langue sont deux choses très différentes. C'est-à-dire que la langue, c'est un nombre limité de mots qu'on trouve dans les dictionnaires, dont les définitions sont dans les dictionnaires. Et avec ce nombre limité de mots, par l'activité langagière de chacun, on peut créer à l'infini des significations nouvelles. Donc le langage, c'est l'activité de chacun dès qu'il parle, dès qu'il pense, dès qu'il parle, dès qu'il réfléchit, dès qu'il écrit. Et donc le langage, c'est l'activité propre à chacun. Et chacun d'entre nous a par rapport à sa langue une relation particulière. Sa langue ou ses langues, d'ailleurs, j'insiste. Alors, Je vais revenir sur ce point en parlant effectivement autour du langage, des propositions qui sont faites pour développer le langage à l'école. Alors on a parlé longuement du bain de langage et on voit bien que c'est totalement inefficace, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant entend beaucoup parler qu'il va parler et mieux parler, certainement pas. C'est parce qu'on parle avec l'enfant. Et il y a des études qui montrent que 6 à 8 heures d'échange par semaine avec un enfant suffisent amplement à son développement langagier. 6 à 8 heures par semaine. C'est-à-dire, vous voyez, l'enfant, il n'a pas besoin d'être immergé sous un flot de paroles continu. Il a besoin qu'on parle avec lui, qu'on l'interroge, qu'on sollicite sa pensée pour développer cette activité-là. C'est certainement pas le fait de répéter des structures, de dire par cœur, de réciter qui assure le développement du langage. Là, on est du côté de la langue, on est du côté de la belle langue, c'est-à-dire on essaye de faire redire à des enfants des phrases qu'on juge belles, des structures qu'on juge bien construites, mais qui ne développent pas l'activité langagière de l'enfant. C'est-à-dire qu'en lui demandant de répéter, certes il va répéter, mais ce n'est pas parce qu'on maîtrise la langue qu'on est en langage. Et donc, si vous voulez, on voit bien, pour le caricaturer, qu'il y a des enfants qui parlent comme des livres, mais les mots peuvent cacher l'absence de construction de concept. C'est-à-dire que si le concept est construit, l'enfant, il est en langage, alors qu'il peut répéter de belles phrases sans qu'il y ait derrière aucun concept construit. Et on voit bien dans les études qui sont faites aujourd'hui autour de langage et problématisation que les enfants, les élèves jusque très tard, milieu du collège, fin du collège, vont utiliser des termes génériques pour parler de la digestion, de la respiration. Ils vont parler de tuyaux, des petits tuyaux, des grands tuyaux, des gros tuyaux. Ça va les aider à construire ces concepts-là. Et si on leur impose dès le départ de parler avec des termes scientifiques, ils vont les utiliser, mais ça va empêcher la construction du concept. Alors il faut viser l'activité langagière avant de viser le développement des structures linguistiques. Alors si vous voulez, on pourra en reparler au niveau de la discussion, mais c'est quelque chose qui est assez complexe, qui est passionnant, et en tout cas c'est le cœur du problème. Alors j'ai mis en bas que donc les tâches de répétition, de récitation, le fait de dire par cœur, on est du côté de la langue, que la reformulation, elle était du côté du langage, mais qu'elle ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant est capable de reformuler quelque chose qu'on est sûr qu'il a tout compris, même si c'est difficile de dire qu'on a tout compris. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du récit de fiction, un enfant peut re-raconter dans ses mots à lui une histoire, telle que le petit chaperon rouge, sans avoir levé les implicites, sans avoir ajouté son langage pour comprendre l'histoire au-delà des mots qui la construisent. Et donc la reformulation, oui, on nous dit que c'est la clé du bonheur, mais ça suffit pas. Alors l'enseignement du langage, il est très problématique parce qu'on voit bien que si ça se fait collectivement, ça ne fonctionne pas, donc il faut que ça relève de petits groupes. Ça ne laisse pas de traces et son évaluation est plus que délicate. C'est-à-dire que c'est plus facile d'évaluer les unités linguistiques utilisées par un enfant. Est-ce qu'à 7 ans, il utilise le « parce que », le « cependant », le « mais », etc. Ça, c'est facile de l'évaluer. Mais ça ne nous dit rien sur son activité langagière. L'activité langagière à évaluer, c'est beaucoup plus délicat. Et puis, les propositions qui sont faites, un mot nouveau par jour, quand on est acquisitionniste, nous laisse un peu sans voix. C'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à 5 ans apprend en moyenne 10 à 30 mots nouveaux par jour. Voilà, c'est un fonctionnement lambda d'un enfant à qui on parle, avec qui on parle, etc. Donc un mot nouveau par jour, certes, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut cibler que ça? Et là, alors on est vraiment en deçà de ce que l'enfant est capable de faire. Et ça ne comble pas les écarts entre les enfants, parce que l'enfant qui maîtrise 300 mots, s'il en apprend un nouveau par jour, à la fin de l'année, il en maîtrisera 400, et celui qui n'en avait que 80, il en maîtrisera 180, 100 de plus. Alors, le langage, on dit aussi souvent que c'est une sous-forme, enfin une préparation à l'écrit, et que c'est une sous-forme du langage écrit. C'est-à-dire, il y a une idée, surtout franco-française, que finalement, le langage oral, c'est pas merveilleux du tout, et qu'il est hâte que les enfants sachent lire et écrire. Parce que ça, c'est la langue, c'est la belle langue, etc. C'est faux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas développer le langage au service de l'écrit. Et puis, si vous voulez, comme idéologie, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que les gens qui savent lire et écrire, alors qu'ils maîtrisent que le langage oral, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, le langage, il a ses fonctions, propres, le langage oral a ses fonctions propres qui ne correspondent pas aux fonctions du langage écrit. Alors, je vais le détailler. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage oral et surtout quelles sont ses fonctions? D'abord, c'est une activité humaine. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous reste à nous les hommes pour être distingués des animaux. C'est-à-dire, jusque-là, on disait que la culture distinguait les hommes des animaux. Et on sait bien qu'il y a des cultures chez les grands singes. Ensuite, on a pensé que la transmission des savoirs distinguait les hommes des animaux. Et on sait que les animaux transmettent des savoirs et des savoir-faire à leurs petits. À un moment donné, on nous a dit aussi que le rire était le propre de l'homme. Mais comme on est dans une époque où on rigole moins qu'avant, je ne suis pas sûre que le rire soit le propre de l'homme. Alors, le langage, c'est une activité profondément humaine et profondément intellectuelle, qui transforme le rapport à soi, au monde et aux autres, sans arrêt. C'est-à-dire que c'est une machine à penser, et c'est une machine infernale, parce qu'à partir du moment où on est rentré dans le langage, cette machine ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on est crevé, qu'on rentre d'une journée de boulot, complètement crevé, qu'on s'affale dans son canapé, et qu'on a l'impression qu'on est complètement hagard, si on s'arrête 2 secondes, on se rend compte qu'on n'arrête pas de se parler à l'intérieur de soi. Ça nous réveille la nuit, quand on a des soucis, vous voyez, ça nous prend, et on ne peut pas s'empêcher d'y penser et de se parler. C'est-à-dire, on ne sait pas comment un enfant, avant d'entrer dans le langage, pense, mais en tout cas, dès qu'il est rentré dans le langage, cette machine ne s'arrêtera plus. Alors, on peut juger qu'elle est infernale à certains moments, on aimerait débrancher, vous voyez, mais ce n'est pas possible. Et puis, le langage, c'est surtout une activité, comme l'a dit Vygotsky, qui va être construite dans la relation à l'autre, c'est-à-dire avant même que l'enfant vienne au monde, on lui parle. Dès qu'il arrive au monde, les adultes lui parlent, et il va progressivement intérioriser ce que les adultes lui ont dit. Et c'est pas un hasard si quand on se parle à l'intérieur de soi, souvent on se parle sous la forme d'un dialogue. C'est-à-dire on va se dire à l'intérieur de soi, mais c'est pas vrai, tu changeras jamais, t'as encore oublié d'envoyer la lettre aux impôts. Vous voyez ? C'est-à-dire on parle en forme de tu as oublié de faire ça, tu ne changeras jamais, t'as encore oublié de téléphoner à X, etc. C'est-à-dire on intériorise cette forme dialoguée qui a été la première forme de langage qu'on nous a adressé. Alors le langage intériorisé et les images mentales, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui ne laisse pas de traces, qui ne se voit pas. C'est-à-dire c'est quand je pense, quand je lis, quand je réfléchis, quand je comprends. Et je peux lire ou faire semblant de lire, les gens qui me voient ne savent absolument pas ce qui se passe dans ma tête et ce que je fais à l'intérieur de moi. Et le langage extériorisé, c'est ce qui laisse des traces, c'est-à-dire quand j'écris, quand je parle, quand je note, etc. C'est-à-dire qu'il y a des traces de mon activité. On est normalement plus souvent en langage intériorisé qu'en langage extériorisé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le langage avait une triple dimension, sociale, psychologique et cognitive. C'est-à-dire sociale, l'enfant, il est immédiatement considéré comme un être de compréhension. Il est pris dans un réseau de communication grâce à l'intervention des adultes. Psychologique parce que le langage assure le développement de la personne. On se construit comme un être semblable et différent des autres, notamment par le langage. C'est-à-dire, c'est le langage qui me permet de comprendre que je suis un être qui ressemble beaucoup aux autres et que pour certaines petites choses, je suis légèrement différent. Mais d'abord, on se ressemble beaucoup plus qu'on est différent. Cognitif parce que c'est le langage, cette dimension cognitive est fondamentale parce que c'est le langage qui construit les connaissances, qui nous donne accès aux connaissances qu'on a et surtout qui les structure et qui les hiérarchise. C'est-à-dire que sans langage, les connaissances, elles peuvent être disposées les unes à côté des autres, mais il n'y a pas de hiérarchie, on ne peut pas les convoquer dans des mondes particuliers quand on en a besoin. Alors les fonctions cognitives sont fondamentales du langage, elles sont fondamentales, c'est-à-dire elles permettent de construire le monde, d'évoquer l'absent, d'évoquer ce qui est passé, d'évoquer ce qui est probable, ce qui va peut-être arriver, le futur, etc. C'est ce qui permet de multiplier les mondes à l'infini, c'est-à-dire je peux inventer des histoires dans ma tête, je peux imaginer des tas de mondes qui n'existeront pas dans le réel, et c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que on voit bien que dans les classes, selon les catégories sociales, il y a des enfants et des élèves qui vont prendre le pouvoir plus facilement que d'autres. On voit bien que la prise de pouvoir est sexuée, c'est-à-dire que les garçons vont prendre la parole plus facilement selon les activités scolaires. Tout ce qui relève des sciences dures et des activités sportives, c'est plutôt les garçons. Tout ce qui relève de la littérature et d'études de la langue, c'est plutôt les filles. Et on sait bien que les hommes prennent plus facilement la parole que les femmes, notamment dans les assemblées. Donc vous voyez, c'est aussi un moyen de prendre le pouvoir, et ce pouvoir, il doit être réparti selon les personnes. Et ça, c'est le rôle du langage. C'est pas la langue. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je passe vite, je sais c'est rapide, mais on aura un temps de discussion, je pourrais revenir largement là-dessus. Alors, je vais attaquer sur les grands courants théoriques d'acquisition du langage, parce que ça nous dit beaucoup de choses sur ce qu'il y a dans les instructions officielles, et peut-être sur des retours en arrière, des bonds en avant qui se réalisent et parfois qui nous laissent sans voix. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais il y a 5 ans, les programmes officiels nous demandaient ça, et puis là, d'un seul coup, on a l'impression d'être dans un univers complètement différent. Il y a des explications. C'est-à-dire que ça renvoie toujours à des courants théoriques. Alors, les courants théoriques, pourquoi ils bougent comme ça? C'est-à-dire, ils rendent toujours compte, d'abord, des savoirs qu'on a sur les développements de l'enfant. Et les savoirs qu'on a aujourd'hui, ils sont liés à la très grande rupture des années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, on nous a dit que le bébé était une personne. Vous voyez, ça doit vous rappeler les documentaires qui ont fait un tabac à l'époque. Ils sont largement liés aussi aux travaux de Dolto, vous voyez, qui est si décrié aujourd'hui. C'est-à-dire que jusque-là, bon an, mal an, on pensait, en gros, je suis dans la caricature, mais je ne peux pas développer, que l'enfant était un tube digestif, hein, en gros, hein, c'est-à-dire il mangeait, il faisait ses besoins et il dormait. Il n'y a pas 100 ans, les enfants, on les laissait emmaillotés toute la journée, pendus à des crochets, emmaillotés, et donc ça ne paraissait pas du tout barbare. C'est-à-dire que la relation avec les adultes, elle s'est aussi construite dans le fait que les enfants maintenant vivent. Jusqu'à des temps pas si reculés, les parents avaient beaucoup d'enfants et il y avait une grande partie des enfants qui mouraient en bas âge. Donc est-ce qu'on peut construire une relation suivie avec un petit quand il y a de forts risques qu'il ne vive pas longtemps? Et donc tout ça fait qu'il y a eu une bascule et que les adultes ont construit des relations très différentes avec les petits. Et puis, il y a des points de vue qui ont été construits sur l'enfant. Points de vue sociologiques, linguistiques, psychologiques, anthropologiques, historiques et religieux. Tout ça nous donne des regards très différents sur l'enfant, la relation qu'on construit avec lui, comment les adultes se situent par rapport à lui. Et vous voyez, ça change complètement le regard porté sur l'enfant et donc sur son développement. Et puis, les modes d'observation de l'enfant ont complètement changé. Piaget observait les enfants en milieu expérimental. Brunner est allé observer les enfants en milieu familial. Donc vous voyez, il n'a pas vu les mêmes choses, nécessairement. Et puis, il y a aussi les types de relations qui sont pris dans des courants idéologiques, la place de la religion a son importance. Et vous voyez, selon les moments, les mouvements, eh bien, on n'entend pas les mêmes choses. Et on a le sentiment qu'on fait des bons en avant ou des bons en arrière par rapport à ça. Alors, je vais essayer de montrer que parfois, les bons en arrière peuvent être nous laisser sans voix. Alors, la première perspective, pour quelqu'un qui parle du langage, tu vois, c'est... La première grande perspective, ça a été la perspective comportementaliste ou behavioriste, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ça a été les premiers chercheurs qui se sont posé la question de comment un enfant apprend à parler. Ce sont des gens qui, au départ, étudiaient le comportement des animaux. C'est pas un hasard. Et donc, ils ont transféré ce qu'ils avaient vu sur les animaux sur les petits humains. Et donc, en gros, ils ont montré que la psychologie des hommes se distinguait de celle des animaux par la mise en œuvre du langage. Alors, vous avez des noms qui vous parlent, Pavlov, Skinner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de spécificité du langage, puisque son acquisition se fait, comme pour le reste, par des stimuli. C'est-à-dire qu'on a des réponses qui sont apparentées à un réflexe ou à un déterminisme. Et que le langage se développe dans ces conditions-là. Ils ont montré que le langage s'apprend par imitation. C'est-à-dire que si on donne un modèle à un enfant, eh bien, il va reproduire ce modèle, il va l'imiter. Et il va le reproduire quasiment à l'identique. Et ils ont donc insisté sur les mots. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mot nouveau par jour. Eh bien, on est revenu vers ce courant théorique. C'est-à-dire, on prône l'insistance sur le développement du lexique et du côté de la langue et pas du langage. Apprendre à parler, pour les behavioristes, c'était en gros savoir ce que désignent les mots. Sauf que la signification n'est pas dans le mot, et le mot ne contient pas les significations. Est-ce que, ouais. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que souvent, pour un enfant qui apprend le langage sous cette forme-là, un objet égale un mot égale un objet. Et l'activité langagière, c'est justement l'activité qui consiste à comprendre qu'un mot peut renvoyer à des objets extrêmement différents et qu'un même objet peut, selon les situations et les contextes, être nommé de manière extrêmement différente. Voyez ? Et c'est ça l'activité langagière, c'est ce qui permet d'extraire le mot et l'objet d'un seul contexte d'apparition. Alors, qu'est-ce qu'on a opposé à ce courant behavioriste ? On a opposé que ce qui fonctionne par stimuli permet d'atteindre un certain niveau de compétence, mais pas, ne permet pas d'aller au-delà. Et puis surtout, on a opposé à ça la créativité manifestée par tout enfant qui parle. C'est-à-dire que les enfants passent leur temps à inventer des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Donc ils ne sont pas dans l'imitation de ce qu'ils ont entendu. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de bon, qui relevait d'un courant, vous voyez l'époque en plus, mais qui est très limité dans sa manière d'aborder le développement du langage. Alors, à ça, on a tout de suite opposé, celui qui s'est opposé à ce courant, ça a été Chomsky. Alors Chomsky, contrairement aux personnes qui ont précédé, il était linguiste. Donc il a eu un point de vue totalement différent. Les personnes dont je parlais avant étaient, je ne sais pas si je vous l'ai dit, excusez-moi, ils étaient psychologues. Donc Chomsky était linguiste, et donc lui, on parle de perspective innéiste ou nativiste, c'est-à-dire que Chomsky a dit qu'en gros, l'enfant naissait avec des structures à l'intérieur de lui. Et on a parlé de grammaire universelle, c'est-à-dire que l'enfant, il est prééquipé pour avoir une grammaire, des structures linguistiques prêtes à être utilisées, quelle que soit la langue d'apprentissage. Il s'est opposé au behaviorisme, c'est-à-dire il a voulu sortir de cette impasse behavioriste qui ne parlait pas de l'acquisition comme elle se passait réellement, en disant, si vous voulez, que le langage pour lui ne correspondait, enfin le développement ne se faisait ni en fonction des contextes, ni en fonction des situations de communication. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'interactions et la qualité des interactions langagières rencontrées par l'enfant, l'enfant de toute façon va parler. Et il va parler correctement. Alors, il a basé ses travaux en disant, voyons, un enfant, il entend du langage oral. Le langage oral n'a pas du tout la même structure que le langage écrit. Et pourtant, très tôt, vers l'âge de 4 ans, il maîtrise les structures de l'écrit. C'est-à-dire, il va mobiliser le passé simple, alors qu'il ne l'aura pas nécessairement entendu dans les interactions langagières orales. Sauf que Chomsky a oublié une chose, c'est que l'enfant, il entend sans arrêt du langage écrit. Quand on lui lit des histoires, quand on lui lit des récits, quand on lui lit des contes. Donc l'enfant, certes, dans les interactions de la vie quotidienne, il entend du langage oral, mais dès qu'il est scolarisé, il entend du langage écrit. Alors, c'était l'époque, pourquoi Chomsky a posé les choses comme ça ? C'était aussi l'époque où on considérait le cerveau comme un ordinateur. C'était la grande époque du développement des ordinateurs. Donc en fait, on considérait le cerveau égal au fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y avait des réseaux et qu'il suffisait que les réseaux soient mis en œuvre pour que ça fonctionne. Chomsky est allé jusqu'à dire que finalement tout était préprogrammé et qu'il n'y avait pas besoin d'apprentissage systématique. Et un disciple de Chomsky a dit « Fodor, on n'apprend rien ». Ça, c'est pas bon pour l'école. Donc il ne faut pas le répéter. Eh oui. Alors aujourd'hui, il y a encore des gens qui reviennent en avant en disant « Tout est dans le cerveau, c'est pas la peine d'assurer les apprentissages ». Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a des chercheurs qui mettent le paquet en disant « Attention, sans interaction, sans le rôle des adultes, c'est comme tout ordinateur, je peux avoir tous les logiciels du monde dans mon ordinateur, si je les active pas, ça fonctionne pas ». Et bien là, c'est la même chose pour le développement des enfants. Alors, ensuite, on a une perspective qui vous parle certainement beaucoup, c'est celle qu'on a appelée constructiviste ou cognitiviste ou génétique. Alors c'est surtout Piaget qui a développé ce point de vue, c'est-à-dire que lui, il a situé les origines de la communication et du langage avant l'intervention ou l'interaction sociale. C'est-à-dire que, voyez, Vygotsky va dire le contraire de ça. Pour lui, le langage il se situe dans la pensée opératoire qui structure l'action. C'est-à-dire que l'enfant, il est d'abord quelqu'un qui agit sur les objets du monde. Et qu'à un moment donné, il va devoir solliciter l'adulte pour développer les actions qu'il mène sur les objets du monde. C'est-à-dire que le langage va venir comme besoin pour aller au-delà de son action. Ce qu'il dit, c'est que, en fait, on ne connaît un objet qu'en agissant sur lui et en le transformant, et qu'à un moment donné, pour agir sur lui et le transformer, l'enfant a besoin du recours de l'adulte, et que donc il va devoir, par nécessité, vous voyez, entrer dans l'interaction langagière avec lui. C'est-à-dire, il va avoir besoin du recours, de l'encouragement des adultes, du fait que les adultes vont lui donner des objets plus complexes pour lui permettre de se développer. Vous voyez, le langage se greffe en second plan sur le développement de l'enfant et sur la relation qu'a l'enfant avec les objets du monde. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Piaget, il observait les enfants en milieu institutionnel, en laboratoire. Donc ça limitait évidemment ce qu'il pouvait voir, parce qu'il observait d'abord l'enfant, il le plaçait face à des objets, des expériences qu'il pouvait mener, et ensuite il voyait comment l'enfant, à un moment donné, si l'adulte n'intervient pas, l'enfant ne peut plus se développer avec les mêmes objets. Donc il a besoin de l'intervention des adultes. Alors, c'est un point de vue qui aujourd'hui est extrêmement critiqué, et j'ai aussi un peu de mal avec ces manières de faire qui font que d'un seul coup, une pensée est complètement mise à la poubelle. Vous voyez comme on fait un peu avec Bourdieu aujourd'hui. C'est-à-dire que chez Piaget, tout serait mauvais aujourd'hui. Ah non, Piaget il nous a montré des choses absolument incroyables sur le développement des enfants, et aujourd'hui, on n'est pas allé plus loin sur certains domaines, vous voyez, de ce qu'il a montré. Alors évidemment, face à ça est arrivé un rouleau compresseur, qui s'appelle Vygotsky. Et Brunner, je vais parler beaucoup de Brunner après, Brunner est un très grand lecteur de Vygotsky. Alors Vygotsky, lui, c'est un autre point de vue, c'est un sociologue. Alors lui, il est arrivé en disant, évidemment dans un contexte tout à fait particulier, lui, il a montré que le bébé était d'abord dans la relation à l'autre. Il a montré que c'était un être social qui rentrait dans une culture qui lui préexistait et qu'il fallait qu'il s'adapte à cette culture et que l'adaptation à cette culture se faisait par les interactions langagières avec les adultes, à travers ces interactions langagières. Et le langage pour lui, c'est un mode de relation aux autres. C'est un moyen d'interpréter, de réguler la culture et aussi d'agir sur la culture. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas un être passif par rapport à sa culture. C'est quelqu'un qui va agir sur sa culture et la modifier. Le langage, pour Vygotsky, c'est quelque chose qui permet de faire les choses avec les mots. Alors que vous voyez, pour Piaget, c'est le langage, il va s'articuler sur ce qu'on fait avec les objets. Pour lui, le développement de l'enfant, il va se situer dans la relation aux autres. L'enfant a un besoin vital de la relation aux autres pour se développer. Et c'est ce qu'il a appelé la zone proximale de développement. Bon, qui est un peu dévoyé, hein, parce que vous voyez, on voit que ça chez Vygotsky, alors qu'il a montré beaucoup d'autres choses. Alors, il faut savoir que Vygotsky ne s'occupe pas des apprentissages scolaires. Il rentre pas dans le monde de l'école. Hein. Lui, il est dans la société, dans la culture, mais il rentre pas à l'école. Alors, on ne peut pas faire dire à Vygotsky ce qu'il n'a pas dit sur l'école. Hein. Alors, évidemment, ça a été, un rouleau compresseur, parce que c'était début du XXe siècle, et c'était dire que les enfants étaient des êtres d'une intelligence extrêmement puissante, que les adultes avaient cette capacité à s'adapter à ces êtres d'une intelligence puissante et surtout à développer cette intelligence puissante. Et vous voyez comme l'intelligence des enfants peut déranger d'une certaine manière les adultes. Donc finalement, les discours de Vygotsky, eh ben, il faut qu'on continue à les prendre en charge et qu'on continue à les revendiquer. Alors peut-être que dans la discussion, on reviendra là-dessus. Alors, on arrive vers notre cher Brunner. Alors, cher Brunner, parce que moi, j'ai une admiration sans borne pour lui. Alors, Brunner, je vous ai dit, c'est un très grand lecteur de Vygotsky. Mais grand lecteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment compris profondément la pensée de Vygotsky. Brunner, c'est un psychologue américain qui, lui, s'est dit, si je veux comprendre quelque chose aux humains, il faut que je considère toutes les dimensions de l'être humain. La dimension psychologique, elle est fondamentale, mais la dimension linguistique aussi, la dimension sociale aussi, la dimension culturelle aussi. Vygotsky, c'est quelqu'un qui a observé les bébés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bébés, c'est jusqu'à 2 ans révolus. Après, ce sont des enfants. En milieu familial, et il est allé voir un peu comment les enfants apprenaient à parler. C'est comme ça que s'appelle son livre le plus célèbre. Et en même temps, il est allé travailler aussi sur l'éducation à l'école comme entrée dans la culture. C'est-à-dire que pour lui, l'école, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver dans la vie d'un individu. Donc il défend l'école comme entrée dans la culture d'une manière extrêmement forte. Alors, qu'est-ce qu'il a observé, qu'est-ce qu'il a analysé dans les familles ? Avec lui, c'est la bascule. C'est-à-dire que lui, il a observé des choses que personne jusque-là n'avait vues. Et depuis Brunner, on n'a pas appris grand-chose sur l'acquisition du langage. Il a vu que les adultes parlaient immédiatement aux petits. C'est-à-dire, à peine sortis du ventre de la mère, les adultes parlent aux petits et lui prêtent la capacité de comprendre. C'est-à-dire qu'on se fiche pas mal de savoir s'il est capable de comprendre. On lui parle normalement. Donc, en lui parlant, on le considère d'emblée comme un partenaire de dialogue. On lui parle en « tu » et on lui dit « je ». On interprète tous les signes renvoyés par les bébés. C'est-à-dire que si le bébé fait une grimace, alors évidemment, c'est de l'ordre du musculaire. Hein. C'est un rictus, c'est pas contrôlé. Mais les adultes vont dire « ah ben, t'as faim, t'as froid, t'en as marre d'être dans ton lit ». Ton biberon te plaît pas. Vous voyez, on interprète tous les signes. Si le petit pleure, on va lui dire que voilà, il a mal au ventre, qu'il en avait assez d'être dans son lit. S'il fait un sourire, donc un rictus, les parents vont tomber complètement gaga devant le petit en disant, bah dis donc, est-ce que tu es content de revoir ton papa et ta maman, etc., etc. Et on interprète tous les signes renvoyés par les petits. Et on le fait si bien que à l'âge de 6 mois, les enfants ont très bien compris qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les adultes. C'est-à-dire ils ont compris qu'en braillant un bon coup dans leur lit, même s'ils n'ont rien, ni mal au ventre, ni froid, ni faim, ni rien du tout, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va venir s'occuper d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont compris les enfants et qu'est-ce qu'ils ont construit ? C'est qu'il y a communication avant le langage. Et donc ils communiquent avec les adultes avant de savoir parler. Et puis, ce qu'a montré Brunner d'une manière extraordinaire, c'est qu'il y avait une façon particulière chez tous les adultes, et c'est universel, de parler aux petits. Ce qu'on appelle le motherese en anglais, alors en français on l'a traduit par mamanais. Alors on aurait pu dire papanais, vous voyez, mais bon, c'est pas très joli hein, comme mot. Et en fait, cette manière de parler aux enfants, elle est très intéressante parce qu'on la retrouve très tard à l'école. Chez les enseignants. C'est-à-dire que quand on parle plus jeune, on marque très fort les intonations, la voix monte très très haut, descend très très bas, et on n'a pas les mêmes groupes de souffle quand on leur parle, vous voyez, on ne marque pas les pauses aux mêmes endroits, et on en fait des tonnes. C'est-à-dire on va faire quelque chose du genre « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est mignon, mais c'est le chéri à sa maman, hein. Oh oui, qu'est-ce qu'il est mignon !» Vous voyez, des choses comme ça. Alors, il a montré aussi, hélas, alors j'ai vu que c'était la parité quasiment aujourd'hui. Les femmes le font plus que les hommes. Voilà. Les hommes sont plus dans, il l'a très bien montré Brunner, il pousse les enfants à grandir, vous voyez, il les amène à faire des choses, vous voyez, face à une petite, à des marches, les mamans vont dire plutôt « Fais attention, vas-y doucement, tiens-toi à la rampe. » Alors que les pères vont dire, enfin, ou les hommes qui entourent l'enfant, peu importe que ce soit le père ou pas, « Oh là là, vas-y, monte, allez, vas-y, mon fils, allez, encore une marche, oui, c'est très bien, etc., etc. » Vous voyez ? Et donc, voilà, les rôles sont très déterminés. Alors après, dans les couples homo, on peut avoir aussi les mêmes rôles, hein, c'est pas... Alors après, l'autre chose qu'a montré Vygotsky, qui nous intéresse pour l'ensemble de l'école, c'est que les moments où les adultes parlent le plus aux enfants, ce sont les rituels de la vie quotidienne. Ce sont les moments où le langage est le plus mobilisé. Et les rituels, ce sont les moments qui reviennent tous les jours à l'identique. C'est-à-dire, en gros, la toilette, parce que normalement, on nettoie un petit tous les jours. D'ailleurs, on est bien obligé, parce que sinon, ça tourne à l'enfer. Ce sont les repas, et le coucher. Et il a ajouté les jeux, sauf que les jeux, vous voyez, je l'ai mis dans une double parenthèse parce qu'il y a des parents qui jouent beaucoup avec les enfants et il y a des familles où on joue moins avec les enfants. Mais en tout cas, les trois rituels, toilette, repas, coucher, on les retrouve dans toutes les familles. Et qu'est-ce qui est génial dans le rituel et qui va assurer le développement de l'enfant, c'est que si on prend le rituel de la toilette, ça se passe toujours à l'identique. En gros, on enlève la couche, on fait un commentaire sur ce qu'il y a dans la couche, ça c'est, on peut pas s'en empêcher. Et puis on va nettoyer les fesses, on va prendre le talc ou la crème et on va remettre une couche. On fait rarement ça dans un autre sens. Ou alors on est très fatigué, vous voyez, mais bon, voilà, on fait ça dans ce sens-là. Et l'enfant, le tout petit, va vite repérer qu'une fois qu'on a enlevé la couche sale, on va nettoyer, mettre le talc. Donc très vite, il va anticiper sur le déroulement du rituel et il va prendre la place de l'adulte. C'est-à-dire, il va, quand il sait que c'est le moment du talc, il va tendre la main et montrer le talc en disant, voilà, maintenant, je sais que tu vas faire ça et je pourrais le faire à ta place. Et quand les adultes jouent avec les enfants, hein, il a parlé beaucoup du jeu du... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est ça. Du coucou, le voilà. C'est-à-dire que l'adulte cache un objet, l'enfant doit le trouver, et très vite, l'enfant va se mettre à la place de l'adulte et aller cacher l'objet et demander à l'adulte d'aller chercher l'objet pour lui, voyez. Et donc, voilà, l'enfant, très tôt, prend la place de l'adulte au niveau du dialogue. Que ce soit un dialogue avec des jeux, que ce soit un vrai dialogue. Alors, les rituels, ils construisent des scénarios langagiers. C'est-à-dire, ils vont devenir des scénarios d'une expérience de la vie. Et ce scénario va permettre de remobiliser l'expérience uniquement par le langage à un moment donné. Alors, je vais donner un exemple. Si un enfant joue sur une plage, il fait un château, il construit, voyez, des tas de choses. S'il n'y a pas un adulte à côté pour mettre en mots l'expérience qui est en train de réaliser l'enfant, l'expérience concrète, vous voyez, eh bien cette expérience, elle ne sera pas remobilisable par l'enfant si elle n'a pas été construite par un scénario langagier. Du type, alors t'as fait un château, pour faire le château tu as mis du sable dans ton seau, tu as mouillé le sable pour faire les tours, tu as fait d'abord tant de tours, etc., etc. Si l'enfant n'a fait que faire le château sans qu'il y ait de langage qui l'accompagne, l'expérience ne sera pas remobilisable. Elle ne va pas être imprimée dans le cerveau, si vous voulez. Donc quand l'enfant va se retrouver à nouveau un an plus tard sur la plage, il va redécouvrir à zéro l'expérience faire un château. Alors que si les mots l'ont accompagné, le langage pourra remobiliser le lendemain, si les parents lui disent « tu te rappelles ce que tu as fait hier sur la plage ?» L'expérience est mobilisable par le langage. Et vous voyez, c'est ça la différence entre certains élèves qui peuvent mobiliser les expériences uniquement par les langages et des élèves qui ne peuvent mobiliser l'expérience qu'en refaisant les expériences avec les objets. Et les élèves qui sont en grande difficulté, quel que soit l'âge, ont besoin de manipuler des objets. Ils n'arrivent pas à mettre à distance pour construire les expériences. Voyez, c'est ça la grande différence. Et c'est ça qui va faire problème. Alors, après, ce qu'a construit, évidemment, ce qu'a montré Brunner, c'est que l'importance de la relation enfant-adulte, c'est que l'enfant parle avec l'enfant en faisant quelque chose avec l'enfant. Et voyez la différence avec Piaget. L'enfant faisait quelque chose tout seul et après l'adulte commentait ou ajoutait, voyez, quelque chose pour que l'enfant se développe. Là, Brunner montre que les adultes font avec les enfants et ils commentent et ils parlent en même temps. On est en train de faire ça, on est en train de... T'as vu, on a réussi à faire une tour encore plus haute que celle d'hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, les adultes parlent à propos d'un objet qui a une fonction culturelle. C'est-à-dire que cette fonction culturelle, elle va donner à parler, penser ensemble. Et en fait, ce qui se passe là, c'est ce qu'a dit le psychanalyste Vidlocher, c'est qu'ils construisent, l'enfant et l'adulte, la copensée. On parle, pense ensemble à propos d'un même objet, même si on ne pense pas la même chose. Vous voyez ? Et c'est ça, et l'école, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire on n'arrête pas d'essayer de parler, penser ensemble à propos du même objet sans penser nécessairement la même chose. Vous voyez, dans la vie de l'enfant, une fois que ça s'était fait par les familles et ça n'est pas fait par toutes les familles, il n'y a que l'école pour proposer ça dans la vie des enfants. Alors, j'ai parlé en introduction du récit et de ses fonctions. Brunner, Le deuxième volet de ses travaux, ça a été les travaux qu'il a menés autour du récit. C'est-à-dire, il a constaté que très tôt, les parents racontaient des histoires à leurs enfants. Et que très tôt, les petits, vers un an et demi, deux ans, faisaient des amorces de récits. Et il a montré que le récit, c'était la conduite langagière la plus fréquente des êtres humains et qu'elle était universelle. C'est-à-dire que, comme conduite langagière, c'est pas la description, c'est pas l'argumentation, c'est le récit qui est notre conduite langagière la plus importante. C'est-à-dire quand on rentre d'une journée de travail, on va raconter ce qui nous est arrivé, on va raconter un événement, on va raconter une rencontre. On est sans arrêt en train de raconter. Et puis, il s'est basé sur les travaux de Labov qui, dans les années 70, avait montré quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire que Labov était allé voir les conduites narratives dans les ghettos noirs américains. Alors, attention, il faut se resituer dans le contexte. Il y a 40 ans, les ghettos noirs américains étaient des endroits où les gens étaient extrêmement pauvres. Hein. Aujourd'hui, c'est les bobos hein, qui achètent les appartements dans les ghettos. Enfin, c'est plus des ghettos noirs américains. Donc, à l'époque, c'était des zones extrêmement pauvres. Et Labov avait été sidéré par les histoires racontées par les adultes à leurs petits. En gros, les parents racontaient des histoires de meurtres, d'attaques, de violences à leurs petits. Et Labov s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Mais qu'est-ce qui leur prend à ces gens-là de raconter des choses d'une telle violence à leurs enfants? Alors, tout petit, hein. Et puis, quand il est allé voir dans les milieux plus favorisés, il s'est rendu compte que dans les milieux favorisés, on racontait des histoires un peu du monde des bisounours. Vous voyez, où il se passait pas de problème, on avait, tout allait bien, on vivait dans un monde avec de l'argent, on partait en vacances, etc. Et en fait, Labov s'est beaucoup interrogé là-dessus, et il a beaucoup interrogé les gens, et il s'est rendu compte que les parents, en faisant ça, intuitivement, permettaient d'outiller leurs petits par rapport au monde dans lequel ils allaient évoluer. C'est-à-dire, en gros, si des parents d'un ghetto noir américain racontait à leurs enfants des histoires de Neuilly, leur gamin, quand il allait être lâché dans la rue, il ne serait pas outillé pour se débrouiller dans un ghetto noir américain. Et donc la manière d'en parler, c'est le récit, et on ancre l'enfant dans son environnement et dans sa culture proche. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que c'est universel et ça se fait intuitivement. Sauf que quand on arrête les adultes et qu'on leur dit, à votre avis, pourquoi vous faites ça avec vos enfants tout petits? Qu'est-ce que vous avez à leur raconter des choses aussi dures, aussi violentes? Eh bien, les parents analysent très bien et disent, mais oui, mais il faut qu'ils sachent qu'il va évoluer là. Il faut qu'ils s'arment pour ce monde-là. Parce que c'est là qu'il va évoluer. Vous voyez, c'est intéressant comme tout. Donc, en fait, le récit, qu'est-ce que c'est? Le récit, c'est la recherche d'un sens, d'une signification face à un événement inattendu, inhabituel, sidérant. C'est-à-dire que quand on voit, quand on rencontre un collègue le matin qui a une attitude qui est complètement étrange par rapport à ce qu'il a d'habitude, on va se dire, tiens, c'est bizarre, ce matin, quand il m'a vu, il a tourné la tête, il m'a même pas dit bonjour, il avait l'air furieux. Et là, tout de suite, on va essayer de trouver des explications. C'est-à-dire, on va se dire, est-ce que, voilà, peut-être qu'il a des ennuis, et peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose ce matin, qu'il se sent mal, etc. Ou peut-être qu'hier, j'ai fait quelque chose qui l'a vexé. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter, et ça passe par le récit. Alors, depuis Brunner, qu'est-ce qu'on sait? On sait, en gros, et regardez comme c'est intéressant, parce que Brunner avait parlé du motherese ou mamanais. Vous voyez, des intonations qui montaient très très haut, qui descendaient très très bas. Eh bien, depuis, il y a des études sur les tout-petits qui montrent que l'intonation, c'est la première grammaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'à 2-3 mois, le bébé sait, si l'intonation monte très haut, qu'il y a quelque chose de particulièrement important qu'on est en train de lui dire. Et il sait que si l'intonation descend très bas, il y a certainement un interdit ou quelque chose de grave qui s'est passé. Première grammaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'il va prendre des significations sur les marqueurs intonatifs. Ce qu'on sait aussi depuis Brunner, c'est que l'enfant est programmé pour apprendre à parler. Sauf que si on laisse un enfant dans un placard en lui donnant à manger, en le soignant, il parlera jamais. Donc on sait surtout que s'il est programmé pour parler, il est programmé pour parler dans l'interaction avec les adultes. Et j'insiste parce qu'il y a un courant actuel qui dit que dans l'interaction avec les pères, ça se fait, mais il n'y a pas d'apprentissage cognitif entre pères. Ça, c'est pas vrai. Sinon, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Hein. On n'a qu'à laisser les enfants par 30 dans une salle et ils vont s'apprendre entre eux. Hein. Ça marche pas. Et puis, depuis Brunner, on a un très grand chercheur que j'aime beaucoup aussi, Daniel Stern, qui lui a parlé de l'accordage affectif. C'est-à-dire qui a montré que les adultes font quelque chose d'extraordinaire avec les petits quand un petit fait commet un exploit, c'est-à-dire arrive à faire quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire jusque-là, les parents vont s'accorder affectivement, s'harmoniser affectivement avec lui, en déplaçant la réussite de l'enfant sur un autre mode. Par exemple, si un enfant arrive à construire une tour qu'il n'arrivait pas à faire la veille, les parents vont applaudir, dire bravo, se mettre à danser. C'est-à-dire, ils vont montrer à l'enfant, ils vont déplacer la signification dans un autre mode de signification. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on fait sortir, vous voyez, on extrait la réussite de l'enfant sur un objet, et on montre que pour soi, on le traduit d'une autre manière. Et ça, c'est très intéressant, parce que, vous voyez, on élargit les modes de signification et les mondes de référence. Alors l'accordage affectif de Stern montre bien que quand les mamans sont... Alors lui, il parle beaucoup des relations maman-enfant. Hein. Alors il faut modérer, hein. Ça peut être d'autres adultes que les parents. Hein. C'est pas parce que c'est pas la maman que ça va mal se passer. En tout cas, il dit bien que quand les adultes qui entourent l'enfant sont dans un état dépressif, cet accordage affectif ne va pas avoir lieu et que l'enfant va arrêter son développement. C'est-à-dire qu'il a un besoin aussi fort, d'après Daniel Stern, de nourriture terrestre que de nourriture affective. Et ça, lui, il l'a montré très fortement. C'est-à-dire que l'enfant, il va se mettre en retrait, ne plus se développer, parce qu'il a besoin de cet accompagnement affectif. Aussi fort que de son biberon, des soins physiques, etc. Alors, ce qu'on sait aussi depuis Brunner, c'est que l'enfant... Le développement du langage s'organise autour de trois pôles. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant, il développe le langage autour du pôle affectif, et ça c'est le moteur principal. Autour des appuis cognitifs qu'il a, et il en a très peu. C'est-à-dire que quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans, on a une toute petite histoire, on a une toute petite mémoire, et que par exemple à 3 ans, on ne se rappelle absolument pas du Noël de l'année précédente, de l'anniversaire de l'année précédente. Là, vous voyez, c'est Piaget qui a parlé de l'amnésie du petit enfant, hein. C'est-à-dire au-delà de 4 à 6 mois, la mémoire a effacé, hein. Donc, les appuis cognitifs, c'est tout ce qui permet à l'enfant de reconnaître, de connaître à nouveau quelque chose qu'il a déjà rencontré, une expérience olfactive, une expérience affective, une expérience avec les objets, une expérience dans la rencontre de l'autre. Et que c'est parce qu'il reconnaît quelque chose qu'il a déjà connu, eh bien il va pouvoir mobiliser le langage. Si l'enfant est dans une insécurité par rapport au pôle cognitif, il ne va pas développer son langage. Et le troisième pôle, c'est le découpage de la chaîne sonore. C'est-à-dire que les petits sont pris dans un flot de discours discontinu, il n'arrête pas d'entendre parler, et il va falloir qu'il fasse un travail de titan pour découper la chaîne et prélever des unités qui vont remobiliser dans d'autres chaînes sonores. Et voyez, en français, comme on a la langue du monde qui pratique le plus de liaisons, voyez le boulot d'un enfant qui va entendre « petit ours », il va entendre « tours », « un ours », il va entendre « ours », 3 ours, il va entendre ours. 4 ours, il va entendre trours. J'en ai oublié. Bel ours, il va entendre l'ours. Et donc, c'est pas par hasard s'ils disent un ours. Des navions. Vous voyez, parce qu'ils font le boulot de découper la chaîne. Et qu'est-ce qui va leur permettre à un moment donné de voir que l'unité ours, c'est ni tours, ni ours, ni ours, ni trours, c'est quand ils vont entrer dans l'écrit. Et regardez le découpage de la chaîne sonore que j'ai prélevé dans une histoire. Qui vivait dans un trou de tronc d'arbre. L'enfant, il entend qui vivait dans un trou de tronc d'arbre. Nous, comme on est lettrés, on a accès à qui vivait, verbe vivre, dans un trou de tronc d'arbre. L'enfant, lui, il va falloir qu'il remonte la chaîne sonore à l'envers. C'est-à-dire, il va falloir qu'il prenne la dernière unité, arbre. Qu'il voit le tronc de l'arbre. Qu'il voit le trou dans le tronc de l'arbre et qu'il se dise que les petites chouettes vivent à l'intérieur du trou qui est dans le tronc de l'arbre. Vous imaginez le travail intellectuel que ça demande. C'est un travail de titan, ça les occupe à plein temps. Quand tout va bien, entre 3 et 4 ans, ils sont devenus des experts du découpage de la chaîne sonore. Des experts de ça, c'est un boulot à plein temps. Mais regardez chez les adultes ce que ça peut donner. Moi, la première fois que j'ai entendu « le Vendée Globe », dans ma tête, je l'ai écrit « le vent, V-E-N-T ». Eh oui, parce qu'évidemment, c'était avec des bateaux, donc j'imaginais le vent. Et j'étais très déçue quand j'ai vu « le Vendée ». Eh oui. J'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, tu sais, quand le jeu des 1000 francs est passé au jeu des 1000 euros, moi, je pensais que c'était le jeu de Monsieur Émile Franc. Donc, elle pensait, elle le découpait, elle voyait Émile, le prénom, et Monsieur Franc à côté. Elle avait découpé la chaîne sonore comme ça. Une amie m'a dit il y a 2 ans qu'elle avait eu la honte de sa vie à 44 ans. Depuis qu'elle était enfant, elle entendait les films de KPDP. Et elle pensait que c'était comme les films d'Hitchcock. Donc, elle écrivait Monsieur KPDP, K-A-P-E. Et elle a lu un roman où le héros était un fou de films de KPDP. Et là, elle a vu les mots et elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle s'est dit, mais non, mais c'est pas vrai. Bien sûr que dans les films de cap et d'épée, il y a des capes et des épées. Voyez? Et regardez la première fois qu'on a entendu les talibans. Je sais pas ce que ça vous a fait, mais moi, mon premier réflexe, ça a été de voir dans ma tête le mot Liban, le pays, parce que je ne connaissais pas les talibans. Vous voyez comme on découpe la chaîne sonore aussi en fonction des savoirs qu'on a. Donc, le découpage, on le fait toute sa vie. Et je vous ai mis à la fin la petite phrase que tous les enfants répètent, tirer la chevillette et la bobinette chez rat. À quel âge on comprend ça? À quel âge on est capable de découper cette chaîne sonore? Vous voyez, on la répète très longtemps avant de savoir à quoi ça renvoie. Donc c'est un travail qu'on fait nous aussi les adultes, hein, tout le temps. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit au départ et que je voudrais développer un peu. C'est-à-dire que l'école et la classe sont des lieux uniques pour développer ses compétences langagières et plus tard ses compétences linguistiques. Pourquoi il n'y a pas d'autre lieu dans la vie de l'enfant? D'abord parce que c'est le seul endroit où il y a un maître ou un adulte expert. C'est le seul endroit où il y a un groupe, c'est-à-dire on est dans un groupe de pairs avec un adulte expert, et c'est le seul endroit où le langage est mobilisé de cette façon-là. Alors je vais essayer de le développer. L'adulte, il est expert dans le choix des objets, des outils, des dispositifs, des activités. Il est tuteur de langage, il assure l'explicitation des attentes de l'école et il permet la scolarisation des objets et des outils et des pratiques langagières et des pratiques sociales qui sont propres à l'école. Et Dieu sait si l'école, c'est un lieu où on fait des choses très étranges, comme dit Bernard Lahire, très exotiques pour les enfants, très exotiques. La scolarisation des objets, c'est-à-dire que l'enfant, il a construit un rapport pratique avec les objets du monde. Il sait faire du vélo. Et puis, à un moment donné, aux évaluations nationales de CM2, on va lui demander, face à un schéma des rouages du vélo, on va lui poser la question, évaluation nationale, comment peut-on savoir si le vélo fonctionne? 40% des élèves répondent, pour le savoir, il faut monter dessus. C'est-à-dire, vous voyez, l'école, elle ne demande pas à l'élève, elle se fiche de savoir s'il sait faire du vélo ou pas. Elle lui demande de construire les discours sur les objets du monde, de mettre à distance la relation pratique qu'il a avec ces objets et de parler des objets sans même peut-être savoir s'en servir. À la question « Décris ce que tu vois par la fenêtre de ta chambre », la plupart des élèves disent ce qu'ils voient réellement par la fenêtre de leur chambre. Et il y a des élèves qui répondent « Je vois un mur, point. » Ils ont 0. Ils n'ont pas compris que l'école n'irait jamais vérifier ce qu'ils voient vraiment par la fenêtre de leur chambre, mais leur demande de mobiliser un discours canonique, un discours de la description, et que c'est ça que l'école attend, que de mettre à distance. Et quand on explique ça aux élèves, il y a des élèves qui nous répondent « Mais alors, il faut mentir. » Voyez, et voyez comment l'enfant peut être pris dans des choses, dans des paradoxes terribles pour lui. Qu'est-ce que je dois faire alors? À quoi je dois répondre? À ce qui relève de mes valeurs familiales, de ma culture familiale, de ce qui se passe vraiment dans ma vie, ou aux attentes de l'école qui peuvent être très loin, très très loin de mon monde quotidien. Alors c'est ça la scolarisation. L'école, elle est là pour apprendre aux enfants des choses qui ne servent qu'à l'école. Et l'école a raison. L'école a raison parce que jamais la vie quotidienne ne sollicite des activités intellectuelles de haut niveau comme l'école le fait. Jamais la vie quotidienne ne le permet. Il n'y a qu'à l'école qu'on va construire et développer des activités intellectuelles de haut niveau. Le quotidien ne le permet pas. Moi, dans le quotidien, comme quand mon robinet fuit, je ne vais pas essayer de calculer combien de gouttes d'eau je perds par minute et donc par journée, etc. Non, j'appelle le plombier, si vous voulez. L'école, elle peut me demander de calculer ça. C'est-à-dire, elle me permet de développer des compétences intellectuelles que le quotidien ne mobilise pas. Alors, le deuxième axe, c'est le groupe classe. C'est-à-dire que le groupe classe, c'est le lieu des interactions langagières, des constructions de pratiques, c'est-à-dire que dans chaque classe, on va construire des pratiques propres à ce groupe, mais qui vont ressembler aux pratiques de l'école en général. Ça va être les pratiques sociales, les pratiques langagières et des pratiques culturelles qui peuvent être propres à un groupe, mais qui ressemblent aux pratiques de toutes les classes. Et puis, c'est le seul endroit où il y a une mutualisation possible des savoirs, des expériences. Et puis, comme il y a mutualisation, on imagine très bien qu'il y a intériorisation des expériences, des savoirs et des savoir-faire des autres pour chacun des élèves. Et dans la vie de l'enfant, je ne vois pas d'autre endroit où c'est possible. Et là, vous voyez, à la fin, j'ai posé une question, un peu fourbe. Est-ce que l'individualisation des apprentissages relève de l'école ? C'est-à-dire, je vois bien que depuis quelques années, on pousse l'école à aller vers là, et je pense que là, il y a un danger réel. Est-ce que l'école, c'est le lieu pour individualiser les apprentissages ? Je crois pas. Il faut faire attention à ça. On peut pas. Alors certes, on peut pas tout apprendre en grand groupe, mais certainement pas non plus dans la relation individuelle avec un adulte. Et là, il y a un danger, hein. Alors, le rôle du langage, c'est-à-dire que le langage, il est construit dans la classe comme outil de compréhension. C'est-à-dire que les maîtres, ils utilisent sans arrêt le langage dans les questions, les reformulations qui construisent l'activité intellectuelle. Les maîtres, ils demandent sans arrêt aux élèves de justifier, d'expliquer, de dire pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, comment ils le savent. Et c'est ça qui met à distance les objets, la vie pratique, la vie quotidienne. C'est ces verbes qui intellectualisent la relation au monde.